ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la saison 2020-2021. Alors après l'Italie d'Alberto Moravia le mois dernier, je vous propose pour ce mois de juin un autre voyage aux États-Unis cette fois. Les États-Unis d'Amanda Gorman. Le nom vous dit peut-être quelque chose. Amanda Gorman, c'est cette poétesse de 22 ans, originaire de Los Angeles, invitée à venir déclamer son texte lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden en janvier de cette année. Pour moi, qui suivais l'événement en direct à la télévision et qui ne m'attendais pas du tout à une telle prestation, ce moment de la cérémonie a été comme un rayon de soleil, une étincelle d'espoir portée crânement par cette toute jeune femme, resplendissante autant par ses mots que par sa beauté. Son poème intitulé « The Hill We Climb », « La colline que nous gravissons », faisait ce jour-là écho aux paroles de Martin Luther King qui prononçait en août 1963 à Washington, devant le Lincoln Memorial, son célèbre discours « I have a dream » devant une foule immense de plus de 250 000 personnes. Certes, il n'y avait pas autant de monde pour écouter Amanda Gorman, presque 60 ans plus tard, et le contexte était fort différent, mais le propos était semblable. Du point de vue du fond, on peut ressentir chez l'un comme chez l'autre une même volonté d'aller de l'avant, un même désir de promouvoir la paix, de rejeter la haine et de croire en un avenir meilleur, avec néanmoins une claire conscience des obstacles qui jalonnent le chemin et qu'il faudra surmonter pour gravir cette colline. Du point de vue de la forme, le poème d'Amanda Gorman est, comme le discours de Luther King, une sorte de harangue avec des répétitions, des images fortes, un vocabulaire spécifique qui concourt à magnifier son propos. Alors, à une époque où nous avons davantage tendance à nous déchirer qu'à nous unir, à chercher la singularité plutôt que l'universalité, je me suis dit qu'il était bon de faire entendre la parole d'Amanda Gorman et de l'inscrire dans un courant en rappelant les noms de quelques autres avant elle, les noms de ces Noirs américains qui, comme elle aujourd'hui, se sont impliqués dans la lutte contre les inégalités raciales. C'est pourquoi j'ai choisi de vous faire entendre, en parallèle avec le poème d'Amanda Gorman, un certain nombre de musiciens et musiciennes qui ont enrichi le patrimoine culturel de leur pays à travers leurs moyens d'expression, le jazz. Pour commencer, voici une grande dame de la musique dont le destin était au départ de devenir pianiste classique et qui en avait la capacité. Mais dans les années 50 aux États-Unis, il n'était guère question pour une jeune fille noire de faire carrière dans un domaine réservé aux blancs. Malgré cet échec qui la marquera toute sa vie, Nina Simone deviendra une immense chanteuse et une figure de la lutte pour les droits civiques. En 1968, elle chante « Ain't Got No, I Got Life », une chanson de la comédie musicale « Hair » au départ, qu'elle fait sienne en gardant la forme de litanie pour dire tout ce dont une femme noire est privée et en lui ajoutant la liste de tout ce qu'elle a, c'est-à-dire chaque partie de son corps qu'elle arbore fièrement et qu'on ne peut pas lui enlever.
Lucky Whetstone and Tony Armstrong, please, my musicians. What key? What key? Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no fresh, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no blues, ain't got no mind, ain't got no work, ain't got no home, ain't got no country, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no wine, ain't got no music, ain't got no time, ain't got no love. I ain't got no uncles, ain't got no aunts, ain't got no father, cousins, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no mind, ain't got no heart.
got no wine, ain't got no nothing, ain't got no God, ain't got no country, ain't got no friends, ain't got no nothing. I'm all alone, all by myself, yeah. I ain't got no friends, ain't got no culture, ain't got no God, ain't got no schooling, ain't got no time, ain't got no friends, ain't got no money, ain't got no time, ain't got no God. But there is something I've got, oh, oh, something I've got. There is something I've got that nobody can take away. I've got my hair, my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my breast, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I've got my arms, my legs, my fingers, my toes, my feet, my toes, and my liver. I got my blood, I got life, I've got life. I've got a headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair on my head, my hands and my ears, my eyes and my nose and my mouth. I got my smile. I got my tongue, my chin, my neck, my boobies, my heart, my soul and my back. I got my sex, yeah. I got my arms, my legs, my fingers, my ears, my heart, my toes and my liver. I got my blood, I got life. I'm gonna keep it as long as I want.
Avant de vous faire entendre le poème d'Amanda Gorman, je voudrais vous lire l'avant-propos écrit par Oprah Winfrey, personnage incontournable de la scène médiatique américaine, mais aussi femme engagée de la communauté noire et soutien du Parti démocrate. Ils sont rares, ces moments d'incandescence où le poids des tourments et des souffrances laisse place à l'espoir, peut-être même à la joie. Ces moments où la profonde angoisse qui a tiraillé notre esprit et ébranlé notre foi, si difficile à exprimer et plus encore à endurer, se transforme en une pure clarté. Ces moments où un flot de sagesse s'écoule au rythme des pulsations de notre sang, des battements de nos cœurs. Ces moments où la grâce et la paix s'incarnent en un être vivant, capable de prendre la pleine mesure du chemin que nous avons parcouru, et d'illuminer par ces mots celui qu'il nous faut désormais emprunter. Elle fut exactement ce que nous attendions, cette fille noire et mince, descendante d'esclaves, révélant qui nous sommes vraiment, notre héritage humain, notre cœur. Tous ceux et celles qui l'ont regardée sont repartis emplis d'espoir, émerveillés d'entrevoir le meilleur de ce que nous sommes et pourrions être, à travers les yeux et l'esprit d'une jeune femme qui, à 22 ans, a été la plus jeune poétesse invitée à déclamer ses vers lors de la cérémonie d'investiture présidentielle de notre pays. Tandis qu'il déferlait sur nous, ces mots ont guéri nos plaies et ressuscité notre âme. Soudain, un pays à genoux, meurtri mais entier, s'est redressé. Et enfin, un miracle. Nous avons senti le soleil transpercer l'ombre sans fin. Tel est le pouvoir de la poésie, et tel est le pouvoir dont nous avons tous été témoins lors de la cérémonie d'investiture du président Joseph Biden le 20 janvier 2021, le jour où Amanda Gorman, se présentant à nous, profondément entière et radieuse, a fait son entrée sur scène et dans l'histoire, nous offrant « The Hill We Climb », la colline que nous gravissons. L'ouvrage en question a été publié en France en mai de cette année, en édition bilingue. Donc l'occasion pour moi de vous faire entendre la version originale, puis la traduction en français, ceci en quatre étapes qui seront entrecoupées de plages musicales. Voici la première. Mr. President and Dr. Biden, Madam Vice President and Mr. Emhoff, Americans and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace, and the norms and notions of what just is isn't always justice. And yet, the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time, were a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother, can dream of becoming president only to find herself reciting for one. Monsieur le Président et Dr. Biden, Madame la Vice-Présidente et Monsieur Emhoff, chers Américains et citoyens du monde. Quand vient le jour, nous nous demandons où trouver la lumière dans cette ombre sans fin. Le poids de nos pertes, une mer à franchir. Nous avons affronté le ventre de la bête. Nous avons appris que le silence ne signifie pas toujours la paix. Et que les normes et l'idée que le monde est juste ainsi fait ne signifient pas toujours que justice y soit faite. Mais soudain, l'aube nous appartient. Sans savoir à quoi cela tient, nous agissons. Sans savoir à quoi cela tient, nous avons tenu bon, témoins d'une nation non pas brisée, mais simplement inachevée. Nous, les héritiers d'un pays et d'une époque où une fille noire et mince, descendante d'esclaves et élevée par une mère célibataire, peut rêver de devenir présidente et se retrouver devant un président à déclamer ses vers. L'esclavage qui a déterminé les relations entre blancs et noirs aux États-Unis reste une donnée cruciale des conflits raciaux aujourd'hui. Et on peut imaginer que lorsqu'une chanteuse de jazz noir décide dans les années 30 de mettre à son répertoire une chanson qui dénonce les lynchages de noirs perpétrés pendant un siècle, elle prend un grand risque. C'est pourtant ce que fit Billie Holiday en chantant pour la première fois Strange Fruit au Café Society de New York en 1939, et en faisant par la suite un leitmotiv de tous ses concerts. Au départ, le texte est écrit par un enseignant juif d'origine russe, Abel Meeropol, membre du Parti communiste, qui choisit d'évoquer les lynchages dans un texte éminemment littéraire auquel la voix inimitable de Billie Holiday apportera toute sa force d'évocation. Après qu'il eut publié ce texte sous le pseudonyme de Lewis Allen et remporté grâce à lui un certain succès dans les milieux de la gauche new-yorkaise, son auteur décida de le proposer à Billie Holiday. Avant de l'entendre chanter par la voix de Billie Holiday, je vous propose de découvrir les paroles du poème d'Abel Meeropol, qui sont d'autant plus poignantes, on pourrait dire, qu'elles font cohabiter dans un même texte la douceur des paysages du sud des États-Unis et l'horreur des crimes perpétrés à l'encontre des Noirs. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood on the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from poplar trees. Les arbres du sud portent un fruit étrange, du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines, des corps noirs qui se balancent dans la brise du sud, un fruit étrange suspendu au peuplier. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Scène pastorale du vaillant sud, les yeux révulsés et la bouche déformée, le parfum des magnolias doux et printanier, puis l'odeur soudaine de la chair qui brûle. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to ripe, for the tree to drop. Here is a strange and bitter crop. Voici un fruit que les corbeaux picorent, que la pluie fait pousser, que le vent assèche, que le soleil fait mûrir, que l'arbre fait tomber. Voici une bien étrange et amère récolte.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
Continuons avec Amanda Gorman. And yes, we are far from polished, far from pristine, but this doesn't mean we're striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose. to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so, we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first, we must first put our differences aside. We lay down our arms so that we can reach our arms out to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true, that even as we grieved, we grew, that even as we hurt, we hoped, that even as we tired, we tried, that we'll forever be tied together, victorious, not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. Scripture tells us to envision that. Everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. If we're to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in all the bridges we've made. That is the promised glade, the hill we climb, if only we dare it. Because being American is more than a pride we inherit. It's the past we step into and how we repair it. Bien sûr, nous sommes loin d'être impeccables, irréprochables. Mais notre but n'est pas de former une union parfaite. Notre but est de forger une union avec la résolution de composer un pays attaché à toutes les cultures, les couleurs, les qualités et les conditions humaines. Ainsi, nous levons les yeux non pas vers ce qui se dresse entre nous, mais vers ce qui se dresse devant nous. Nous comblons le fossé immense, car nous savons que pour faire passer notre avenir avant tout, nous devons avant tout passer outre nos différences. Nous déposons les armes pour nous tourner les uns vers les autres, mains tendues. Qu'à chacun soit épargné la peine et donné la paix. Que le monde entier, à tout le moins, soit pris à témoin. Même endeuillé, nous avons progressé. Même en souffrance, nous avons espéré. Même à bout de force, nous avons persisté. Nous serons à tout jamais liés. Victorieux, non parce que jamais plus nous ne connaîtrons la défaite, mais parce que jamais plus nous ne sèmerons la division. Cela est dit dans les Écritures. Chacun pourra s'asseoir sous sa vigne et son figuier, et nul ne viendra l'inquiéter. Si nous voulons être dignes de notre époque, nous devons vaincre non par la lame de l'épée, mais grâce au pont que nous aurons construit. Telle est la clairière promise. La colline que nous gravissons, si tant est que nous en ayons le courage, car être américain est bien plus qu'une fierté reçue en héritage. C'est le passé dans lequel nous nous inscrivons et la façon dont nous le réparons.
shine up in the sky when the day is gray. I know it, clouds passing by. He'll give love.
Duke Ellington et Billy Strayhorn ont composé une suite orchestrale assez longue, puisqu'elle fait 45 minutes, intitulée Black, Brown and Beige. Elle raconte l'histoire du peuple afro-américain dans son évolution et son intégration dans la société américaine. Cette suite sera jouée pour la première fois au Carnegie Hall le 23 janvier 1943. Le morceau que vous venez d'entendre en est la quatrième partie, un gospel magnifiquement interprété par la chanteuse Mahalia Jackson, autre figure importante de la lutte des Afro-Américains, aux côtés de Luther King, présente lors du discours de Washington et présente aussi 5 ans plus tard lors des funérailles du pasteur, au cours desquelles elle chantera en sa mémoire. Le lien avec la religion, pour les leaders du mouvement des droits civiques, fut évidemment très important, de même que pour les musiciens de jazz de cette époque, qui ont puisé une partie de leur inspiration dans leurs racines religieuses, avec les Negro Spirituals et les Gospels. On voit qu'il en reste quelque chose aujourd'hui même, puisque Amanda Gorman, elle aussi, fait appel aux écritures pour étayer son propos. Revenons donc à son poème. We've seen a force that would shatter our nation rather than share it, would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. In this truth, in this faith, we trust. For while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. This is the era of just redemption. We feared it as its inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour. But within it, we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves. So, while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe? Now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us? We will not march back to what was, but move to what shall be. A country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free. We will not be turned around or interrupted by intimidation, because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. Our blunders become their burdens. But one thing is certain, if we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy. And change our children's birthright. Nous avons vu une force résolue à détruire notre nation plutôt qu'à la partager, résolue à démolir notre pays en entravant la démocratie. Et cette charge a failli aboutir. Mais si la démocratie peut parfois être entravée, elle ne saurait être jamais définitivement vaincue. C'est cette vérité, c'est cette espérance que nous portons. Car tandis que nous avons les yeux tournés vers l'avenir, l'histoire a les yeux rivés sur nous. Voici venu le temps de la juste rédemption, celui qu'à son commencement nous redoutions. Nous n'étions pas prêts à être les héritiers d'un moment si terrifiant. Mais nous y avons puisé le pouvoir d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire, de nous offrir le rire et l'espoir. Hier, nous nous interrogions. Comment pourrions-nous triompher de la catastrophe? Aujourd'hui, nous affirmons comment la catastrophe pourrait-elle avoir raison de nous? Nous ne reviendrons pas à ce qui a été. Nous irons vers ce qui sera. Un pays meurtri, mais entier, bienveillant, mais audacieux, intrépide et libre. Nous ne serons pas refoulés, ni ne nous laisserons intimider, car nous savons que notre inaction et notre inertie serait le legs de la génération qui suit. Nos faux pas deviendraient leur fardeau. Mais une chose est certaine, si nous allions la compassion à la puissance et la puissance au droit, alors l'amour sera donné en héritage à nos enfants et le changement sera un droit acquis.
Thank you.
Charlie Mingus, 1922-1979, contrebassiste et compositeur de jazz, fut également en son temps engagé pour l'égalité des droits. En 1959, il signe un album intitulé « Blues and Roots », qui constitue une sorte de retour aux racines de la musique noire américaine, qu'il met à sa sauce avec beaucoup de plages d'improvisation, comme dans le morceau que vous venez d'entendre et qui a pour titre « Wednesday Night Prayer Meeting », la réunion de prière du mercredi soir. Dernière étape maintenant du poème d'Amanda Gorman. So, let us leave behind a country better than the one we were left. With every breath from our bronze-pounded chests, we will raise this wounded world into a wondrous one. We will rise from the gold-lined hills of the west. We will rise from the wind-swept northeast where our forefathers first realized revolution. We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states. We will rise from the sun-baked south. We will rebuild, reconcile, and recover in every known nook of our nation, in every corner called our country, our people, diverse and dutiful, will emerge battered but beautiful. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it, for there is always light, if only we are brave enough to see it. If only we are brave enough to be it. Laissons donc après nous un pays meilleur que celui qu'on nous a légué. À chaque souffle de nos poitrines martelées de bronze, nous élèverons ce monde écorché vers un monde émerveillé. Nous surgirons des collines dorées de l'ouest, nous surgirons des terres du nord-est balayées par les vents, où nos ancêtres ont les premiers accompli la révolution. Nous surgirons des villes bordées de lacs des États du Midwest. Nous surgirons du Sud, chauffées par le soleil. Nous reconstruirons, réconcilierons, guérirons, dans chaque parcelle de notre nation, dans chaque coin de notre pays, notre peuple pluriel et dévoué. Nous nous dresserons, martyrisés mais merveilleux. Quand vient le jour, nous sortons de l'ombre, ardents et vaillants. L'aube nouvelle s'épanouit à mesure que nous la délivrons, car il y a toujours de la lumière, pourvu que nous ayons le courage de la voir paraître, pourvu que nous ayons le courage d'être cette lumière. Thank you. Vous aurez sans doute reconnu cet air dont la célébrité dépasse les frontières des États-Unis, un air qui a été interprété par de nombreux chanteurs ou musiciens qui s'appelle Amazing Grace. Ici, c'était un arrangement de 1977 du saxophoniste et compositeur Archie Shepp, seul jazzman encore vivant parmi ceux que je vous ai proposé d'écouter aujourd'hui. Il a 84 ans cette année et il joue toujours. Alors, pour comprendre le titre et savoir ce que cette grâce a de merveilleux, il faut remonter en fait à la fin du XVIIIe siècle et se transporter en Angleterre. C'est en effet parce qu'il survit à un naufrage que le marin négrier anglais John Newton, jusque-là peu porté sur la religion, est touché par la grâce et devient pasteur. Il écrit des hymnes pour sa congrégation et notamment pour son sermon du 1er janvier 1773, cette Amazing Grace qui parle de sa rédemption et fait de lui un anti-esclavagiste. Après sa mort, cet hymne, publié avec succès en Angleterre, sera aussi chaleureusement accueilli aux États-Unis. Il deviendra au début du XXe siècle le Negro Spiritual par excellence. Il accompagnera le mouvement des droits civiques et les manifestations contre la guerre au Vietnam dans les années 60 et 70. Et lorsqu'en 2015, on rendra hommage aux victimes de la fusillade dans l'église de Charleston, c'est Barack Obama lui-même qui entonnera cet hymne. C'était donc une occasion de faire écho aux paroles d'Amanda Gorman, cette jeune femme qui a foi en un avenir meilleur, qui encourage ses concitoyens à s'atteler à la tâche afin de léguer à leurs enfants un monde plus juste. Souhaitons que sa parole soit entendue, et même si les choses ne changent pas du jour au lendemain, il semble qu'après 4 ans de déchirement, les Américains soient maintenant en mesure de panser leurs plaies et de vivre dans une société un peu plus sereine et plus solidaire. Quant à nous, l'heure est venue de nous quitter. Je vous souhaite un bel été poétique et musical et je vous donne rendez-vous au mois de septembre prochain. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.